RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Stéphane Carpentier.
Et on vous écoute à partir de maintenant jusqu'à 14h. Vous êtes la priorité absolue. Vous prenez les commandes de l'émission. Les sujets qui vous interpellent, qui vous intéressent, vous les commentez. On dialogue tous ensemble. Le numéro à composer, 4 chiffres, 3210, 3210. Et à disposition, bien évidemment, les réseaux sociaux. Vous êtes assez nombreux à nous rejoindre sur le compte Twitter RTL Midi, mais aussi la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. On va parler radar avec cet argent donc colossal récolté chaque année. Et en 2017, on a battu des records. Christophe Bourreau, Christelle nous l'expliquait tout à l'heure. On est à, au-delà du milliard donc,
alors,
pour les radars
automatiques.
Alors, on est à
1 milliard pour les radars automatiques. Et en tout, si on compte toutes les infractions plus le stationnement, on est aux alentours de 2 milliards.
Voilà, on se demande si cet argent est bien utilisé aujourd'hui, puisqu'on a appris qu'il y a une partie de cette somme, donc de ces 2 milliards, qui sert à améliorer les choses de l'endettement de l'État.
Voilà,
pour résumer, absolument. On a des messages déjà. Première réaction sur les réseaux sociaux, Laurent Tessier.
Ouais, bah, la vie est très tranchée sur Facebook. Hein. Vous êtes 91% à nous dire non, comme Adrien. Cet argent n'est en aucun cas bien utilisé, vu l'état de nos routes, les nids de poules, les lignes blanches bien effacées à plusieurs endroits. Pour AOTEP, la hausse des recettes prouve bien que les radars servent à pomper du fric. Les chauffards continueront à faire n'importe quoi. À quoi ont servi ces 2 milliards d'euros? Au réseau routier, vraiment? Eh bien, Vincent renchérit avec d'autres questions sur la page Facebook. Oui, où est cet argent des radars? Où est aussi l'argent du tabac, celui des autoroutes, des retraites, de la sécu? Nous sommes le peuple le plus taxé du monde. Il n'y a plus un rond nulle part. Personne ne s'interroge. Pour Jacques, c'est tout simplement du pur racket. Et Yannick adresse un message très personnel aux défenseurs du 80 km/h. Vous croyez encore que cette mesure a été prise pour notre sécurité? Laissez-moi rire.
Voilà, le débat fait rage, évidemment. Vous allez rejoindre nos réseaux sociaux pour commenter. Le 3210, le standard, toute notre équipe est en place. On va donner la parole d'abord à un chef d'entreprise qui justement a arrêté sa voiture, qui est dans le Gard à Nîmes et qui se prénomme Jérôme et qui nous rejoint avec plaisir. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Vous roulez beaucoup, donc vous avez des choses à dire.
Oh là là, j'ai plein de choses à dire, je pourrais faire une émission avec vous.
Bon, bah, allez-y, commencez déjà.
J'adorerais d'ailleurs un jour discuter avec Madame Perrichon. Ça serait assez sympathique. Alors moi, ce que je voudrais dire tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'automobiliste, moi j'essaie de faire vivre ma boîte. Je prends la voiture tous les jours, c'est 80 km par an.
Oui.
Et je peux vous dire que même quand je ne suis absolument pas pressé, même quand je suis parfaitement zen, je suis stressé parce que je me dis que je peux me faire pincer à n'importe quel moment. Parce que tout simplement, la vitesse à laquelle on nous oblige à rouler aujourd'hui n'est pas la vitesse naturelle. Donc aujourd'hui, quand je passe plus de temps à regarder mon compteur et à chercher des panneaux sur le bord de la route, savoir quelle est la vitesse à laquelle j'ai le droit de rouler, plutôt que de regarder mon environnement immédiat.
Oui, mais donc c'est quoi, en fait, pour vous la vitesse naturelle?
La vitesse naturelle, c'est la vitesse à laquelle vous allez naturellement avec votre automobile sans être pressé, tout en étant respectueux de l'environnement. À un moment donné, bien sûr, il faut établir des règles. Et ça, je suis tout à fait pour, comme chacun, j'imagine. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, demain, moi, je prends ma voiture, je roule à 180 ou à 200. Je ne peux pas dire que je n'étais pas au courant, parce qu'on le sait quand on roule très vite, si vous voulez. Mais quand vous recevez un PV parce que vous étiez à 92 vitesse retenue au lieu de 90, c'est inadmissible. Mais ça, multiplié 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois dans l'année, parce que malheureusement, ben, vous devez rouler beaucoup pour votre activité professionnelle, ben voilà, à la fin...
Mais vous prenez combien de PV pour excès de vitesse? Vous faites flasher combien
constamment.
De fois?
Mais j'en prends constamment. J'en prends constamment. Je mets au défi quiconque, y compris des ayatollahs de la sécurité routière, de respecter les règles qu'ils nous imposent. C'est strictement impossible. Aujourd'hui, en plus, il n'y a aucune visibilité. Excusez-moi, je pars vite parce que j'ai plein de choses à dire. On n'a strictement aucune visibilité. Aujourd'hui, vous avez des tests qui changent tous les 5 km.
C'est vrai que parfois, sur une même route, il y a des panneaux qui peuvent changer assez souvent.
On ne sait plus. Donc, évidemment, si vous plantez un radar au milieu, évidemment, vous allez vous faire pincer. Donc, en plus, la sécurité routière nous désinforme complètement à la télévision, à la radio, en faisant des campagnes qui sont complètement fausses. Quand on annonce qu'à 80 km/h, un choc est deux fois moins violent qu'à 90, c'est complètement faux. Mathématiquement parlant, le choc est 21% plus violent, pas 100% plus violent. Donc, ça baisse l'information complète. Et d'autre part, je voudrais finir en disant que la limite du corps humain est grosso modo 65 km/h. Vous heurtez un arbre ou un mur à 65 km/h, vous êtes mort. Donc, à 80 ou à 90, ça va changer quoi? À part rapporter de l'argent?
Jérôme, vous restez là si vous le pouvez encore quelques instants, parce qu'on va vous confronter tout en direct, évidemment, juste après ceci, à un moniteur d'école, d'auto-école en l'occurrence. C'est Michel qui est dans les Yvelines et qui lui dit « Respectons le code de la route et ce sera bien plus simple ». A tout de suite, 3210 vos sentiments, il est 13h11.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière.
Stéphane Carpentier.
Et vous intéressez beaucoup au 3210, à ces radars qui flashent plus que jamais. Jérôme nous disait à l'instant qu'il n'arrivait pas à respecter constamment les limitations de vitesse. Michel, bonjour.
Bonjour, bonjour à l'équipe d'RTL, merci beaucoup de m'accueillir.
Avec plaisir, Michel.
Sur les ondes.
Donc on vous présentait à l'instant, vous êtes moniteur d'auto-école en région parisienne.
Oui, maintenant on dit enseignant de la conduite et de la sécurité routière, donc ça porte la bonne parole dans les entreprises, dans les écoles, pour les enfants. Mmh. Et puis, bien entendu, tous les jours sur les routes, avec à subir le comportement, bien entendu, des usagers qui nous dépassent un peu partout, nous mettent en danger, ils mettent en danger nos élèves, bien entendu. Mmh. Et moi, finalement, je ne veux pas polémiquer sur la vitesse. Je la respecte, bien entendu. J'ai mes 12 points, bien entendu.
Oui, mais quand Jérôme dit parfois, on n'arrive pas à la respecter parce qu'il y a des panneaux qui changent tout le temps. C'est vrai.
Mais c'est la vérité. Mais il suffit de regarder en compétence 2 de notre programme qui s'appelle le REMC. On apprend à nos élèves à rechercher les signaux formels, la signalisation verticale, la signalisation horizontale. Il suffit de regarder, de prendre son temps, de regarder les panneaux. Mmh. Maintenant, on a aussi les GPS qui nous informent.
Oui.
Et moi, je voulais principalement rappeler que 1 milliard, vous avez dit 1 milliard, 1 milliard 2, c'était 920 millions en 2016. Mais ramener ce chiffre, je souhaitais que vous en parliez, au chiffre de l'insécurité routière, c'est 50 milliards d'euros. C'est 38,3 milliards d'euros au titre des accidents corporels. Il y a au moins un décédé dans l'auto, et c'est 10 milliards de plus si on compte les accidents corporels. Mmh. Donc ça fait 2,2% du PIB. Alors bien entendu, c'est des sous, c'est vos sous, madame Christelle et Stéphane, c'est vos sous. Mmh. Nous payons des impôts pour ça. Donc il est vrai que le coût des radars peut-être n'est pas complètement ramené à la sécurité routière, mais rappelons, c'est 11,3 milliards au titre de la mortalité, 22 milliards pour les hospitalisations, 3,8 milliards, vous voyez, pour les véhicules légères, et 1,1 milliard pour les dégâts matériels. J'ai recopié un peu ce qui est indiqué au niveau du ministère de l'Intérieur. Voilà, donc c'est 50 milliards d'euros, vous voyez, mais ça, il faut le dire.
Oui, oui, mais vous avez raison de le rappeler.
Il faut le rappeler, parce que moi, je suis dans les Yvelines, il n'y a pas un jour, je reçois des fichiers Excel de tous les décédés. Encore une dame a perdu la vie hier, brûlée dans sa voiture à Saint-Léger en Yvelines, 33 ans. C'est triste quand on voit des bouquets de fleurs sur les arbres. Elle était au téléphone, attrape une jeune fille de 18 ans, sans permis, sans assurance. Elle est rentrée dans un bus à 70 km/h. Elle faisait Snapchat dans sa voiture. Vous voyez, il faut dire ça aux gens. Mmh. Et je vous invite ce week-end, si vous avez un petit peu de temps, à aller à Saint-Quentin, au Vélodrome. Il y a le championnat de France de désincarcération. On va voir des pompiers qui vont agir. On va voir ce que ces gens subissent tous les jours. Ils voient des drames de la route. Eh bien, allez faire un petit tour là-bas. Vous verrez, les Yvelines sont champions de France de désincarcération. Les pompiers font un travail magnifique. Et il faut aller voir ça. Mmh. Respectez les vies. C'est mon message. Soyez prudents sur les routes. Et nous faisons le maximum, les enseignants de la conduite, pour essayer de se respecter. Et nos élèves, on leur dit, mettez vos téléphones dans votre sac. Voilà, attachez correctement votre ceinture. Alors, le monsieur Jérôme disait 65 km/h. En fin de compte, c'est 56 km/h. Hein, 56 km/h choc frontal. On est décédé. Les pompiers appellent ça des morts propres. Vous voyez, il n'y a pas de sang, il n'y a rien du tout. Mais le corps humain n'a pas évolué. Il n'a pas évolué. À 36 km/h, choc latéral, on est mort. 13% en France, c'est des chocs latéraux. C'est les priorités à droite où personne ne freine. On ne freine plus, les freins ne s'allument plus. Les stops à l'arrière, vous voyez.
Vous avez raison de le rappeler à tout le monde, Michel. En tous les cas, respecter les limitations de vitesse, c'est votre message principal. Et vos exemples sont choquants et marquants, bien évidemment. Il y a du monde qui voudrait intervenir. C'est pour ça, Michel, que je me permets d'aller vers Patrick, qui est dans le Pas-de-Calais, qui nous rejoint au 3210. Bonjour à vous, Patrick.
Oui, bonjour Stéphane. Bonjour Christelle.
Qu'est-ce que vous voulez nous dire là-dessus?
Écoutez, moi je suis entièrement d'accord avec l'auditeur qui vient de s'exprimer. Et c'est vrai que Il faut juste respecter un petit peu plus le code de la route et puis bon, on va limiter les dégâts. Et puis bon, sur le sujet de l'argent qui n'est mal redistribué, c'est-à-dire qui n'est pas utilisé à 100% pour améliorer notre sécurité, bah, tout ça on le sait, bon, ça fait des années de toute façon qu'on constate qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration, surtout sur les routes qui sont très très accidentogènes. Je prends un simple exemple qui va vous parler. J'habite depuis quelques temps pas loin d'une nationale. Cette nationale, sur 15 km, elle est mortelle. Elle est mortelle. Chaque année, il y a 2 voire 3 décès. Alors, cette nationale, elle pourrait être sécurisée. On a des platanes sur les bas-côtés qui ne sont pas encore isolées, vous voyez, avec une rambarde de sécurité, quelque chose comme ça. Je ne comprends pas que ça ne soit pas mis en place. Je ne demande pas à ce qu'on les coupe, ces platanes. Non, il faut encore une fois.
Vous voulez dire, Patrick, que sur ce tronçon de 15 km qui est particulièrement accidentogène, rien n'a été fait ?
Non, il y a quelques îlots qui ont été posés à droite à gauche à l'entrée des agglomérations, enfin des petites villes où, vous voyez, où il y a d'un seul coup, il y a une petite intersection pour qu'on se rende compte qu'il y a une intersection. Mais après, sur 2 km, voire 3, vous pouvez rouler à la vitesse que vous voulez, il n'y a plus rien. C'est tout droit. Et les chocs sont tout le temps violents. Il n'y a pas de petit accident sur cette portion. Et à chaque fois que j'entends les pompiers qui arrivent sur le secteur, je suis quasi sûr qu'il y a malheureusement une personne décédée à l'intérieur. Donc je me dis, pourquoi on n'agit pas sur ces points qui sont vraiment noirs? On attend quoi? On attend quoi? Aujourd'hui, dans mon secteur, on est en train de faire des aménagements pour un réseau de bus de transport en commun qui coûte des millions. On dépasse des millions de mètres cubes de terre pour un seul bus, vous voyez, qui va peut-être être, lui, en sécurité. Mais nous, dans cette histoire, je pense qu'on est oubliés. Enfin, c'est le constat, malheureusement, que je fais, un constat dramatique, parce qu'à chaque fois, je m'aperçois qu'il y a des personnes qui perdent la vie sur cette route. Il y a de plus en plus de fleurs qui sont accrochées sur cette rambarde de sécurité ou, quand il n'y en a pas, sur le platane qui a été malheureusement percuté. Voilà.
Merci Patrick d'avoir partagé votre témoignage et sentiment depuis le Pas-de-Calais, fidèle auditeur de RTL Midi. Vous êtes tous les bienvenus au 3210. Prenez la parole, rejoignez-nous pour commenter l'actualité. On va aller dans l'Essonne puisque Francis a des choses à nous dire sur ce dossier en particulier. Vous appelez au 3210 et les réseaux sociaux pour vos messages, la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole.
Stéphane Carpentier,
Christelle Rebière,
les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
Et on continue d'évoquer avec vous ces radars automatiques qui ont rapporté plus d'1 milliard d'euros l'année dernière à l'État. Francis veut intervenir, il nous appelle de l'Essonne. Bonjour Francis.
Bonjour Christelle, bonjour Stéphane.
Bonjour
Merci
Francis.
De prendre mon appel. Voilà, moi en fait, on se pose beaucoup de questions, mais en fait la question elle est simple, c'est qu'ils sont là. Donc on est d'accord avec eux. Donc on a 12 points, on n'est pas d'accord, on perd les points. Ils sont là, donc on n'a pas le choix. Voilà, ils sont là.
Ça veut dire que vous êtes hyper vigilant et que vous respectez le code de la route?
Oui, parce que de toute façon, moi je veux... Alors j'ai 11 points, bêtement, parce qu'après le viaduc de Millau, il y a une belle descente, j'ai mis mon régulateur et le régulateur s'est emballé. Le lieu d'être à 90, j'étais à 100, donc j'ai perdu un point. Mais néanmoins, moi sur autoroute, quand je retourne dans mon beau pays qui est le Portugal, et je me mets à 134. Voilà, régulateur et roule ma poule.
C'est-à-dire un quand tout petit peu au-dessus de la limitation légale.
Oui, mais je sais que je suis à 128 chrono.
D'accord.
Parce que 134 compteurs,
précis,
c'est à peu près 128. Donc je pourrais même monter à 138, 138. Mais je me mets à 134, je mets le régulateur et tout va très bien. Moi, je travaille beaucoup en ville, donc qu'est-ce que je fais? Je mets le limitateur. Parce que j'ai la chance sur mon camion d'avoir un limiteur de vitesse, donc je me mets en limiteur. Je vois pas l'intérêt de jouer, parce que si je joue contre les radars, je suis sûr de perdre.
Donc ce sont des petites astuces en fait.
Pardon?
Ce sont des petites astuces en fait.
C'est des astuces. Tous les véhicules, maintenant, la plupart des véhicules modernes, ma voiture a 3 ans, mon camion a 3 ans. Voilà, on a tous un régulateur, un limiteur de vitesse. C'est pas une astuce. C'est parce qu'il y a des gens qui sont peut-être un petit peu, qui sont peut-être plus jeunes, qui ont envie de ils ont une belle voiture, ils ont envie de la faire marcher, sauf que derrière, ça flash. Forcément, ça flash. Moi, j'ai eu 20 ans, je peux vous assurer que moi, j'ai connu le premier radar Quai d'Ivry et le deuxième Porte d'Auteuil, je savais où ils étaient.
Il y en avait un peu moins, c'est vrai qu'on savait où ils étaient. Je me tourne vers Michel, qui est toujours là, notre moniteur d'auto-école. Il a raison, Francis, c'est une solution. On met un régulateur.
Oui, puisque nous, en compétence 4, dans notre programme, on apprend à nos élèves les aides à la conduite. Ce qui veut dire qu'il y a eu une leçon où je leur apprends le limiteur, oui. le régulateur, comment on l'enlève, comment on le met, comment, voilà, comment on se sert de ses aides à la conduite. C'est tout moniteur qui se respecte doit apprendre ça à ses élèves. Et c'est vrai, votre éditeur a tout à fait raison.
Voilà.
Si on respecte, voilà, il suffit de rechercher. Et ce qui manque, je pense, c'est un petit peu de formation. Mmh. Il faudrait que les usagers, vous voyez, ont perdu l'angle mort, leur montrer la tâche aveugle. Mmh. La tâche aveugle, dite tâche de Mariotte. Hein, vous allez sur Google, vous recherchez tâche de Mariotte. Vous allez voir, c'est impressionnant. Au stop, si on ne regarde pas sur la gauche, on ne montre pas ça à nos élèves, on regarde en premier sur la gauche. Pourquoi, monsieur ? Ben parce qu'on roule à droite en France. Ce sont des petits détails qui sauvent la vie aux motards. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ça, c'est des leçons. Moi, j'ai 61 ans. J'ai fait ça. J'étais dans une grande entreprise d'informatique. J'ai arrêté justement pour faire ça. Vous voyez ? Et pour apprendre, pour mettre ma main un peu, ma touche sur la sécurité routière. Apprendre aux jeunes, ça, qu'ils ne comprennent pas. Il y a beaucoup d'usagers qui ont perdu cette habitude. Vous voyez, de mettre le clignotant dans les giratoires. Moi, je vais dans les CCAS.
Oui, enfin, ce que vous nous expliquez quand même, Michel, c'est qu'il faut faire quand même encore un petit peu de pédagogie. Ce serait peut-être pas mal que tout au long de notre vie d'automobiliste, on ait régulièrement des petits moments comme ça où on nous rappelle quelques évidences.
Bien sûr, ce qui calmerait les gens sur le coup, c'est si on leur payait avec le coût des radars. Si je connais M. Emmanuel Barbe, je l'ai vu, déjà, je l'ai rencontré.
C'est un monsieur le délégué interministériel à la sécurité routière.
Exactement, c'est un monsieur qui est à l'écoute. Manque de chance, c'est pas lui qui a pris la décision, je pense que c'est au-dessus, c'est Édouard Philippe qui a dû décider en direct. Bref, on fait pas de politique. Mais, vous voyez, il suffirait de faire une formation, de payer une formation aux gens. Vous savez que le permis est valable 15 ans. Aujourd'hui, c'est 15 ans. Hein, région administrative, il faut redonner une photo et une adresse. Bon, et ben, il suffirait de faire une heure ou deux de pédagogie.
À ce moment-là, hein, à cette occasion-là, voilà. Et ça ferait une petite remise à niveau.
Merci,
c'est
Michel.
Une bonne idée. Merci beaucoup.
Michel. À très bientôt.
Merci, à bientôt.
On salue Francis dans l'Essonne aussi qui est intervenu. Bonne route à vous, soyez bien prudents.
Merci
de vos participations. Un dernier regard concernant ce sujet sur les réseaux sociaux, Laurent Tessier, notamment des réactions des auditeurs et auditrices sur notre page Facebook.
Hein. Ouais, vous êtes nombreux à nous laisser des messages comme Sonia. Je fais beaucoup de kilomètres par an pour mes déplacements professionnels. Depuis 10 ans, je n'ai perdu qu'un seul point. Il y a des règles, il faut les respecter, c'est tout, et je ne suis pas plus stressé que ça. Marie a eu son permis en 1972 et je n'ai soufflé que deux fois dans l'éthylotest durant toute ma vie d'automobiliste. Il est plus facile, c'est sûr, d'installer des radars automatiques qui rapportent un maximum d'argent sans avoir besoin de mobiliser du personnel. Pour Céline, il y aurait probablement moins d'accidents si le gouvernement s'inquiétait de l'état de nos routes qui se dégrade fortement dans certains départements. Et puis Pierre, enfin, lui, a trouvé un nouveau slogan « Vive la sécurité rentière ».
Les messages des auditeurs et auditrices via les réseaux sociaux, c'est toujours un plaisir. Le compte Twitter RTL Midi, la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. On change de sujet, parce que vous le décidez, évidemment, sujet qui vous intéresse beaucoup, c'est le cumul emploi-chômage. On va vous écouter dans un instant au 3210. Soyez les bienvenus, à tout de suite.
Stéphane Carpentier,
Christelle Robière.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
On en parlait tout à l'heure dans le journal à midi et demi, on évoquait ces inquiétudes autour du cumul emploi-indemnité-chômage. Le gouvernement pourrait revenir dessus par simple décret. Or, il y a 800 000 personnes qui en bénéficient. Voilà. Et l'idée, c'est quand même d'occuper un emploi, même peu rémunéré, plutôt que de rester au chômage. On accueille Catherine, qui nous appelle de Charente. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour.
C'est même
bonjour.
Cathy, hein, je crois, non ?
C'est Cathy, mais c'est pardonnez-moi. Pas grave. Voilà, c'est pas grave.
Je n'osais pas être aussi intime avec vous.
Non, mais je vous en prie, on a l'habitude de se parler régulièrement, alors absolument. C'est pas grave.
Alors, vous en avez bénéficié de ce système déjà ?
Alors, ça m'est arrivé, donc comme j'expliquais, je suis assistante maternelle. Donc, assistante maternelle, oui. Veut dire avec des emplois, des contrats précaires de 3 ans, en règle générale. Mm-hmm. Donc, au bout de ces 3 ans, le parent nous licencie, nous fait donc une feuille d'acédique. Et ça m'est arrivé, ben, malheureusement, de ne pas retrouver systématiquement dans le mois qui suit ou un nouvel enfant à garder, c'est-à-dire de resigner un contrat avec de nouveaux parents. Donc, étant donné que je peux prétendre à avoir un complément de la part des acédiques. Alors, on ne retrouve jamais la totalité de ce qu'on perd, hein, bien évidemment. C'est un petit complément. C'est toujours calculé parce que vous avez quand même des emplois conservés. Si moi je garde 3 ou 4 enfants, j'en perds 2. Il m'en reste encore 2 à garder. Donc je peux bénéficier de ce complément. Comme je vous dis, qui ne couvrira jamais la perte complète de ce que j'ai. Mais voilà, sur 550 euros ou 600 euros, j'ai peut-être retouché que 300 euros. Mmh. Alors, c'est uniquement pour pouvoir pallier forcément à ce manque. Et voilà, alors certainement qu'il y a peut-être des gens qui en ont profité. Moi, je sais pas, c'est ce que j'écoutais tout à l'heure en début de journal. Mais c'est quand même une aide, c'est quand même pas négligeable, quoi. C'est ce que je veux dire.
Mmh. On disait tout à l'heure qu'il y avait plutôt des abus du côté des entreprises, en fait. Parce que alors, ça les arrangeait de faire des contrats courts.
Peut-être. Mais moi, au niveau des assistantes maternelles, je veux dire que j'ai des collègues, je pense que ça... Est-ce qu'il y en a peut-être qui en abusaient ? Je ne sais pas. J'imagine peut-être même pas, mais ça peut arriver. Mais c'est quand même... ça serait quand même dommage qu'on puisse perdre ça. Parce que c'est quand même précaire comme emploi. Et du jour au lendemain, vous pouvez perdre votre emploi parce que un parent s'en va ou l'enfant est scolarisé, ce qui est normal, on le sait. Mais on n'est pas censé retrouver des fois tout de suite un emploi, quoi. Et c'est vrai que c'était, ça peut quand même aider, ça nous aide quand même à pallier ce manque, quoi, ça c'est sûr. Et comme je vous dis, on ne retrouve jamais la somme, mais voilà, c'est toujours quand même toujours appréciable sur 600 euros que vous perdez, vous retrouvez 300. Mmh. Bon, et surtout que on cotise, je veux dire tous les mois sur mes feuilles de paye. Moi, je cotise pour le chômage comme tout le monde, comme tout à chacun, quoi. Mmh. Donc c'est vrai que c'était peut-être un petit avantage, Je sais pas comment il faut le voir, mais c'est vrai que quand on a un emploi un peu précaire comme nous, c'est vrai que c'est pas négligeable. Mmh. Bon, si ça s'arrête, ça s'arrêtera. Voilà.
L'idée de base, c'est quand même d'inciter à la reprise d'activité des chômeurs.
Mais parce que dès que je retrouve un nouveau contrat, hop, je signale tout de suite et ça peut durer. Voilà, c'est toujours sur des petites périodes, ça va être 3, 4, 5 mois, mais ça n'a jamais été au-delà, quoi. Mmh. Voilà, c'est ponctuel. C'est vraiment, donc dans le ponctuel, voilà, c'est jamais des choses, c'est jamais sur le long terme. C'est vraiment toujours des choses très ponctuelles.
Restez avec nous, Cathy. On a aussi Thierry qui est chef d'entreprise. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Vous n'êtes pas très bon, vous êtes dans l'Allier.
Oui.
Vous êtes en boulangerie, vous ?
Oui, je suis en boulangerie, je suis chef d'entreprise en boulangerie, j'ai une vingtaine de salariés. Je bois les paroles de la personne que je viens d'entendre.
Oui.
J'évoque assez régulièrement avec mes collègues chefs d'entreprise une idée que j'ai depuis un petit moment et qui se rapproche du sujet du jour. À mon avis, le système qui est en place n'est sûrement pas mauvais, il peut, à mon avis, être amélioré. Mmh. Surtout en orientant la décision vers le décisionnaire, en clair. Le chef d'entreprise, c'est d'abord lui qui décide savoir s'il va embaucher ou pas. Mmh. Un salarié qui serait chômeur de longue durée et qui aurait décidé de jouer un petit peu avec ce système-là, vous ne l'empêcherez pas de le faire. Mmh. Donc ma vision, elle est la suivante. Un salarié touche, faisons simple et mathématiquement essayons de stabiliser les choses, imaginons qu'il touche 800 euros d'allocation chômage. Mmh. Vous décidez d'embaucher cette personne. Vous décidez que le salaire, je dis n'importe quoi pour que ce soit facile, soit de 1200 euros net. Les 400 euros de différence sont assurés par l'employeur. Ce qui revient à peu près à ce qu'on met en place dans le schéma, c'est le même type d'idée que sur le sujet qu'on évoque aujourd'hui. Mmh. L'employeur, sur ces 400 euros, va payer des cotisations. Certes, pendant ce temps-là, le gouvernement, au travers de Pôle emploi, va continuer d'assurer les allocations du salarié. La contrepartie que doit offrir l'employeur, c'est un CDI. Ça n'empêche pas l'employeur de prendre une personne pendant un mois en CDD, puis un deuxième mois en CDD, et arrive le moment où il faut prendre la décision de le garder ou pas le garder. Mmh. Et là, ça devient compliqué. Si cette personne a le droit à des allocations chômage, on déduit du salaire que l'on souhaite verser le montant de ces allocations chômage, et l'employeur ne verse que la différence, et donc les cotisations qui vont sur cette différence.
Oui.
Techniquement parlant, le gouvernement continuera de verser les allocations chômage, mais de l'autre côté, il retouchera des cotisations qu'il n'aurait pas en temps normal. Mmh. Et le salarié, lui, a le droit à... Je reprends la sémantique de la personne qui a été intervenue précédemment.
Donc tout le monde est gagnant.
Ça coûte quelque chose de stable.
Ce que vous nous dites, c'est que tout le monde est gagnant parce que du coup, ça coûte moins cher à l'État aussi.
Oui, avec un petit mais. Mmh. Limitons ça à des entreprises de moins de 50 salariés. Alors certes, on va me dire que je prêche pour ma paroisse, mais... Je ne pense pas que les grosses structures soient dans ce type de schéma. La décision, elle se prend, il faut que ce soit pris par la personne qui est à la tête de l'entreprise et qui a la main sur ces comptes-là, qui a la capacité de prendre la bonne décision. Donc, d'avoir eu un salarié avec qui il a des contacts permanents, qu'il peut donc avoir eu, comme je l'avais dit il y a quelques secondes, en CDD une fois, deux fois, et prendre la bonne décision. Mmh. Je ne connais pas de chef d'entreprise qui sont contents de faire CDD sur CDD, vous payez une prime de précarité, vous payez des congés, tout comme les heures supplémentaires, je ne suis pas certain qu'un salarié, un chef d'entreprise soit content d'en payer. Moi, quand je paye des heures supplémentaires parce que j'y suis contraint, parce que le salarié les a fait, il est payé à 125 ou à 150%, il n'a pas pour lui 150% de travail. Mmh. Il n'y a aucun intérêt. Mmh. Essayons d'apporter aux gens de la stabilité. Mmh. Et à partir de là, vous verrez la sérénité se dégager. Pour les uns, comme pour les autres.
Mmh. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est une idée intéressante. Ouais. Merci beaucoup.
Regard intéressant de Thierry, donc chef d'entreprise dans la boulangerie et qui nous passe un coup de fil depuis l'Allier. On va accueillir Anne qui a des choses à nous dire aussi et son expérience en particulier sur ce sujet depuis les Vosges. Vos appels au 3210 et puis on abordera le dossier plastique avec vous et le tri des déchets dans notre pays. C'est au 3210 que ça se passe. À tout de suite.
RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Stéphane Carpentier.
Et on pratique le tri des déchets dans RTL Midi aujourd'hui. Comment bannir le plastique de notre quotidien, à commencer par les emballages, on en parle tous ensemble. Beaucoup de réactions sur notre page Facebook, Laurent Tessier.
Oui Christelle, les grands responsables dans cette histoire, critique Martine, ce sont les industriels. Ils doivent changer leurs emballages. Le comportement de la population est à revoir aussi, hein, répond Luce. La mentalité ambiante est lamentable. Le manque d'éducation, le je m'en foutisme est sidérant. Venez voir le local à poubelle de ma résidence et vous aurez une bonne idée sur le travail qui reste à faire. Exactement, remonte dit Sylvie, nos plages ne ressemblent plus à grand chose. Mais honnêtement, rajoute Bruno, il faut arrêter d'être CON, vous l'avez compris. Un minimum, moi mes déchets sont triés, je ne balance pas mes assiettes en plastique par la fenêtre. Lors des pique-niques, je prends mes détritus avec moi. Ce n'est pas une question d'être anti-plastique, mais c'est avant tout une question d'éducation, encore une fois.
Voilà, et un petit message pour Luce, c'est pas mieux à Paris, figurez-vous, dans mon immeuble du 18e arrondissement, on jette à peu près tout et n'importe quoi dans les poubelles, il n'y a aucun tri qui est organisé.
Tri.
Et je vous parle de Paris. Hein. Et les camions poubelles, il y en a pourtant qui passent tout au long de la journée, voire le soir, voire la nuit. On a Jean qui est en ligne avec nous depuis la Seine-Maritime et qui nous rejoint et qui a 4 enfants. Bonjour Jean, soyez le bienvenu.
Bonjour, merci.
Bonjour, comment faites-vous ?
Ben écoutez, moi c'est nous, parce que c'est surtout grâce à ma femme qui est formidable et que j'embrasse. C'est arrivé un peu par hasard. Des amis qui nous ont prêté un bouquin qui s'appelle La famille zéro déchet.
Oui.
Et qui donne plein de trucs parce que finalement le tri, si je vais être un peu provocateur, mais le tri c'est le passé. L'avenir, c'est pas le tri. L'avenir, c'est d'avoir et de produire et de consommer le moins de déchets possible. Mmh. Et donc, voilà, ce bouquin donne plein de trucs extrêmement concrets.
Alors, comment faites-vous ? Racontez-nous, par exemple, au quotidien. Comment faites-vous ? Votre objectif, c'est donc zéro déchet. Comment faites-vous ?
Non, enfin, on essaie de progresser. Nous sommes des débutants et c'est un.
Bah, c'est difficile. C'est hein.
Voilà, il faut apprendre. Mais ce sont des petits trucs, comme l'expliquait la personne qui témoignait au début de l'émission, d'aller faire ses courses avec des sacs en tissu, d'acheter en vrac. Mmh. Y a des trucs très marrants qui amusent beaucoup les enfants, de fabriquer nous-mêmes les pastilles, par exemple, pour le lave-vaisselle à partir de produits qui ne coûtent rien du tout. Et ça marche d'ailleurs beaucoup
mieux. Et ça marche très bien, oui.
Ça marche même beaucoup mieux, oui. Ouais, ça marche très bien. Mmh. Voilà, donc c'est intéressant. Et puis, on a aussi, ça fait aussi écho au texte du pape François, nous, qui nous a beaucoup marqué, Laudato si, qui était sorti en 2015. Et qui parlait plein de choses, mais notamment de l'écologie dans la vie quotidienne. Mmh. Voilà, de chacun de pleurer en disant la planète va mal, c'est bien, mais il faut essayer d'agir. Et on peut agir par des petites choses concrètes dans la vie, dans la vie de tous les jours. Et on essaie de l'apprendre aux enfants, voilà. Et ça, c'est vachement important aussi.
Mais alors, ça veut dire, Jean, par exemple, que vous n'allez plus jamais au supermarché ?
Bah, aussi, parce qu'il y a des supermarchés qui vendent en vrac. Et puis, comme je vous le disais, on n'est pas parfait. Hein. C'est, voilà, ce sont des petites choses comme de faire comme faisaient nos parents, de faire nous-mêmes les
yaourts. C'est ce que je disais, on revient dans les années 50.
Ça demande un peu de temps aussi.
Voilà.
Ça demande d'y consacrer un petit peu de temps, mais ce sont des temps qu'on peut faire, qu'on peut passer ensemble à partager et discuter. Donc, c'est aussi très, très sympathique.
Ce sont des efforts en tous les cas. Sylvaine vous rejoint de Lorient. Jean, vous restez là, s'il vous plaît, si vous avez encore du temps pour nous. Bonjour Sylvaine.
Oui, bonjour à vous. Merci de prendre mon appel. Alors, je ne sais pas si je vais être vraiment dans le thème du jour, mais en fait, moi, je voulais savoir, bien sûr, il n'est pas question de remettre en cause le fait que nous devions trier nos déchets ou consommer différemment, mais c'est plus, en fait, par rapport à ce qui est produit également à l'étranger. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller régulièrement. Et c'est vrai que dans des pays, notamment en Afrique, vous voyez des tonnes et des tonnes de déchets sur les plages, des plastiques, mais des tonnes de plastiques. Et bien évidemment, ce que j'expliquais à votre collègue, quand il y a des marées, quand il y a des vagues, et tout ce plastique va dans la mer. Merci. Alors, on a notre part à faire, bien sûr, en France, hein, mais quoi faire? Mon mari travaille beaucoup à l'étranger. En ce moment, il est en Arabie Saoudite. Il m'a envoyé une photo. Il est allé faire les courses. Il a un sachet de plastique par objet. En fait, hein, parce que dans les supermarchés, ce sont les employés qui mettent les courses dans les sacs et il y a un sachet par objet. Et donc, on multiplie ça par X millions de personnes hein, et X millions de sachets qui ne sont pas. Alors, je ne dis pas qu'en Arabie Saoudite, ce n'est pas recyclé, parce que là, je ne le connais pas, mais je connais la Côte d'Ivoire, par exemple, au Sénégal, où ça, c'est sur les plages, c'est dans les villages.
Il y a des décharges sauvages, déjà. Il faut lutter contre les décharges sauvages. Et deux, il faut développer le recyclage. Et ça coûte aussi très cher, hein, le recyclage des déchets. Merci en tout cas d'avoir attiré notre attention, Sylvaine, sur cette problématique, parce qu'effectivement, on est un petit peu seul, quoi. Il y a l'Europe, et puis après, il y a le reste du monde.
Voilà, dossier plastique sur le magazine L'Obs. Hein, vous allez le consulter quand vous le souhaitez. Bien sûr, c'est en partenariat avec RTL. Merci de vos appels au 3210 pour commenter l'actualité tous les jours, du lundi au vendredi, de 12h30 à 14h. Dans un instant.
Dans un instant, du Laurent Gérard tout frais, même pas recyclé.
Vous écoutez RTL.